informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
Coup d'État au Burkina Faso, le Parlement européen s'exprime enfin et marque toute sa préoccupation face à la situation actuelle. Des étudiants ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé ce lundi 21 février pour, disent-ils, manifester contre le rejet des dossiers de demande de certains étudiants comptant pour la quatrième tranche des octrois de l'aide prêt Foner. Le président du Bénin, Patrice Talon, a ouvert officiellement un vernissage au Palais de la République sur les œuvres d'art et trésors royaux récemment restitués par la France, ainsi que des créations de nombreux artistes béninois contemporains. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, notre invité du jour est le docteur Daniel Kéré. Il est le directeur exécutif du Centre d'études Afrique-Monde, CEDAM. Avec lui, il sera question de la gouvernance actuellement du Burkina Faso avec l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et de la restauration MPSR. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Coup d'État du 24 janvier, le Parlement européen s'exprime enfin dans une déclaration dont Radio Oméga a obtenu une copie. L'institution européenne, tout en condamnant le putsch, a demandé la révision de la clause d'immunité des forces spéciales. Cette clause stipule en effet que les membres des forces spéciales ne peuvent être traduits devant les tribunaux pour tout acte commis au cours de leurs opérations. Pour le Parlement européen, cette réglementation viole les droits des victimes à la justice et la réparation. Le Parlement souligne également qu'un retour urgent à l'ordre constitutionnel est impératif, y compris un retour immédiat à un gouvernement civil. Et dans un communiqué publié hier par la présidence, on apprend que le coup d'État du MPSR a fait 2 morts et 12 de blessés, tous des civils. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a instruit l'ouverture d'une enquête. Des détails avec Lamine Traoré.
Le bilan rapporté à ce jour 20 février 2022 fait état de 2 décès et 12 de blessés civils par l'effet de projectiles perdus, peut-on lire dans le communiqué publié dimanche soir. Le président du Faso, chef de l'État, a instruit les services compétents d'ouvrir une enquête afin de faire le point des dégâts collatéraux occasionnés, a précisé le communiqué et de poursuivre que le président du Faso a aussitôt instruit que des actions soient entreprises auprès des familles des victimes afin de les soutenir moralement, de prendre en charge les blessés et de recueillir leurs différentes préoccupations. Le président du Faso rassure l'opinion que toutes les mesures sont prises pour soutenir et assister les victimes et leurs familles, termine le communiqué. Un mois après ce push du MPSR, Oméga a révélé qu'une fille attend toujours de se voir retirer une balle dans le poumon.
On apprend qu'une délégation du MPSR est allée apporter son soutien à la blessée hier matin à l'hôpital de Tengango, ex-Blaise Compaoré. La délégation a remis une enveloppe de 1 million de francs CFA pour aider à la prise en charge de la victime. Des étudiants ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé ce lundi 21 février pour, disent-ils, manifester contre le rejet des dossiers de demande de certains étudiants comptant pour la quatrième tranche des octrois de l'aide et prêt Foner. Sous la houlette de la FESIBF, ces étudiants sont actuellement devant le siège du Foner, dont ils ont barricadé la porte d'entrée principale. Ils demandent à rencontrer la directrice générale. En rappel, depuis le 17 février, les aides et prêts Foner ont été disponibilisés. Seulement, à l'issue des délibérations, plus de 5000 dossiers ont été rejetés pour des raisons diverses, dont une insuffisance de sources financières. Le Burkina Faso présente une mauvaise campagne agricole 2021-2022, une situation très alarmante et décriée vendredi dernier par la Confédération paysanne du Burkina. Elle s'est prononcée sur la question au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Moumouni Yaro pour le compte-rendu.
La prévision de production céréalière de la campagne agricole 2021-2022 était d'environ 4 700 000 tonnes, mais elle connaît une baisse de 9% selon la Confédération paysanne du Burkina. Elle s'explique par le déplacement massif des populations fuyant leurs terres pour des raisons des attaques terroristes, la baisse de la pluviométrie, la COVID-19 ou le manque d'une politique d'irrigation. Marc Gansonré, secrétaire général de la FESCOPAB, Fédération des sociétés coopératives des professionnels agricoles.
À plus de 60%, les producteurs ont estimé que la campagne agricole a été très mauvaise. La situation est encore plus alarmante dans les régions du Nord, le Centre-Nord, du Centre-Est et de l'Est, où plus de 80% des exploitants agricoles ont apprécié très négativement les résultats de la campagne.
La situation alimentaire se présente donc difficile. 2,7 millions de personnes seraient dans le besoin d'aide alimentaire d'ici le mois d'août. Marc Gansonri.
Environ 67% des exploitants familiaux estiment ne pas pouvoir couvrir leurs besoins alimentaires. En conséquence, près de 2,7 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une assistance alimentaire d'ici le mois d'août 2022, soit 12% de la population globale.
Conséquence, les prix des produits agricoles connaissent une flambée, à en croire la Confédération paysanne du Burkina. Elle invite par ailleurs les gouvernants à prendre des actions de secours.
La société Ipro Business a présenté vendredi dernier à la presse son projet de foire internationale des affaires et de la coopération IBC-FAIR, prévu se tenir du 24 février au 28 février 2022 dans les locaux du CIAO. Cette foire internationale se veut être un tremplin pour le renforcement des relations des affaires entre les opérateurs économiques burkinabés et turcs, d'où le thème de cette édition « Contribution au développement des affaires en Afrique ». Enjeux et opportunités d'affaires entre la Turquie et le Burkina. Yaya Diomandé nous en dit plus dans son compte-rendu.
C'est dans l'objectif de booster les relations économiques turco-burkinabées que l'entreprise turque Ipro Business initie cette foire au Burkina. Les promoteurs attendent faire profiter les acteurs économiques burkinabés du développement industriel turc à travers cet espace d'affaires. Alassane Compaoré est le directeur général de Ipro Business.
C'est l'occasion aussi à nos entrepreneurs burkinabés qui sont là, qui sont dans les commerces un peu diversifiés, que ce soit le commerce général, le BTP, l'agroalimentaire, ainsi de suite, de venir aussi et profiter de cette occasion-là parce que c'est des opportunités à saisir. Vous avez la possibilité de rencontrer effectivement ces hommes d'affaires turcs-là dans plusieurs domaines auxquels vous pourrez échanger pour partager des expériences et pourquoi pas aussi des échanges de technologies. Et à l'issue de cela, notre souhait le plus ardent, c'est plus qu'il y ait des contrats de représentation d'une marque, par exemple.
Prévu se dérouler du 24 au 28 février prochain, la foire internationale des affaires et de la coopération sera ponctuée d'expositions-ventes et de réunions d'affaires B2B, le tout autour de 9 secteurs d'activité. Alassane Compaoré, directeur général de Ipro Business.
Nous avons une essai qui, en fait, ce sont des secteurs clés pour le développement. Vous savez, actuellement, avec l'énergie, c'est un secteur vraiment qui est en pôle, que nous devrons vraiment beaucoup mettre l'accent, qui va vraiment donner un plus au Burkina. C'est-à-dire, et on va voir aussi l'agroalimentaire. Alors nous avons bien nécessaire que ce sont des secteurs qui vont faciliter les échanges. Non seulement ça sera du business pour du win-to-win, comme on le dit, et ça va aussi permettre à chaque pays de pouvoir tirer profit.
L'entreprise promotrice de cette foire internationale, Ipro Business, est une société turque fondée par un Burkinabé résident en Turquie, évolue dans l'import-export, la logistique et le tourisme.
À l'international, au Niger, retrait de Barkhane et Takuba du Mali, une grande partie des forces françaises et européennes seront redéployées vers le Niger. Niamey devient ainsi le principal allié de la France et de l'Europe contre les djihadistes au Sahel. C'est une bonne option selon Kala Muntari, ancien ministre nigérien de la Défense, car, dit-il, tout seul le Niger ne peut garder la frontière nigéro-malienne où les forces du Mali sont quasi absentes, ce qui pourrait profiter aux terroristes.
Tout seul, nous ne pouvons pas garder cette frontière-là, qui fait 800 km, rien qu'avec le Mali, pas le Burkina, ni l'Algérie, ni la Libye. C'est une très grande frontière. Par conséquent, nos effectifs, nos unités, telles qu'elles sont organiquement formées, ne peuvent pas couvrir à elles seules tout cet espace-là. Donc nous avons besoin des autres. Et surtout que de l'autre côté, du côté du Mali, il n'y a pas les forces maliennes. Je suis au regret de le dire. Il m'a été possible de faire toute cette frontière-là pour visiter nos populations, pour visiter nos forces armées. Nulle part, nous n'avions été en face des forces maliennes, en face des forces nigériennes. Donc nous sommes seuls à assurer ce côté-ci. Si le gouvernement décide d'avoir des partenaires sur cette frontière, je pense que c'est un bon choix.
Kala Muntari, ancien ministre nigérien de la Défense, est actuellement député à l'Assemblée nationale. Il a été interrogé par notre correspondant à Niamey, Bashir Mahman. Ouverture au Bénin d'un vernissage au Palais de la République. L'exposition concerne les œuvres d'art et trésors royaux récemment restitués par la France, ainsi que des créations de nombreux artistes béninois contemporains. Le vernissage qui a pour thème Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation, a été officiellement lancé par Patrice Talon ce samedi dernier en présence d'un parterre d'autorités politico-administratives. Latifou Boni, depuis Cotonou, pour le compte-rendu.
Quand le vernissage demain, ce samedi matin, les hôtes de prestige s'avancent, Patrice Talon lui-même. Un peu plus loin, son épouse, Claudine Talon, et juste à ses côtés, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Les présidents d'institutions sont là, les ministres, les responsables de chancelleries et représentations étrangères, ici au Bénin, la ministre française de la Culture, pour compléter le tableau. L'attention à fleur de regard, le groupe de premiers visiteurs fait le tour de la galerie. Passant en revue récades, trônes royaux, les portes des palais royaux et autres biens entreposés, parfois dans des glaces soigneusement érigées. Le circuit a son guide qui explique, raconte, donne vie aux objets, les visiteurs sont tout ouïes. Le circuit sera refait à la suite des premiers visiteurs par les rois et têtes couronnées. Quand le guide explique, par moment, le chef de l'État, Patrice Talon, s'introduit pour préciser, commenter, avant qu'à pas royaux, les dignitaires ne poursuivent leur visite. Quand il termine le circuit, dans une longue allocution, le président de la République explique au roi l'importance du vernissage, l'intérêt du processus de retour des trésors royaux de l'Occident au Bénin et en Afrique de façon générale, la nécessité d'une restitution d'une part de la dignité africaine emportée. Ce samedi n'est que l'étape introductrice. Jusqu'au 9 mai, 3 mois durant, les fresques seront là à accueillir les visiteurs. Pour sa réussite, spécialiste, moyen, rien n'a été ménagé par le Palais de la République pour que cet espace aménagé pour la circonstance ait assez de visites. Latif Boni Cotonou, Radio Omega.
L'invité du jour. L'invité du jour.
On ne peut pas dépolitiser l'administration, mais on peut faire la promotion de cadres compétents. C'est ce que pense notre invité du jour, le docteur Daniel Kéré, directeur exécutif du Cercle d'études CEDAM. Interrogé par Denis Zungrana, docteur Kéré estime aussi que le monde associatif n'a pas vocation à soutenir un président. Il gagnerait plutôt à faire des propositions concrètes au MPSR.
Docteur Daniel Kéré, directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Zungrana.
Paul-Henri Damiba, désormais président du FASO, il a prêté serment le 16 février dernier. Reçu donc au cours de notre émission, Docteur Aboubakar Sango affirmait que le MPSR pouvait se passer de cette cérémonie de prestation de serment. Vous, Docteur Kéré, quelle appréciation vous faites justement de cette affirmation de Aboubakar Sango?
Bon, il faut préciser déjà que dans les faits, le MPSR était au pouvoir depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Et l'idée de prêter serment, en réalité, ne vient que constater cet exercice de fait du pouvoir d'État. Et je pense que c'est beaucoup plus par rapport à des considérations liées aux questions internationales. Pour donner, disons, un symbole au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine et de l'ONU, que bon, le régime s'inscrit dans une sorte de formalité institutionnelle, pour ne pas donner l'impression que c'est un régime d'exception qui vient de s'installer. Il faut inscrire beaucoup plus la prestation de serment dans cette dynamique.
Alors, juste après la cérémonie de prestation de serment, le lieutenant-colonel, donc désormais président du FASO, a tenu son, on peut dire, son premier discours. Vous, est-ce qu'il y a des éléments ici qui ont requis votre attention? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été oubliés? Ou bien vous pensez que c'était un discours à applaudir?
Il faut inscrire ça dans la logique même de la prestation de serment qui veut qu'il pose un tel acte. Et maintenant, en termes de déclaration, et un aspect quand même qui m'a semblé important, ils ont dit qu'ils ne sont pas un régime révolutionnaire. Et je pense qu'il faut mesurer la portée d'une telle déclaration. Quand on parle de révolution, bon, des gens souvent ont tendance à croire que c'est un régime d'exception qui va venir et brutaliser une partie qu'on estime être les exploiteurs du peuple et au profit de ceux qui sont exploités. C'est cette connotation-là qu'il a voulu déjà séparer en disant qu'ils ne sont pas un régime révolutionnaire. Mais dans les faits, c'est, quand on parle de révolution, le terme veut dire changement. Un changement radical, un changement profondeur, c'est ça la révolution en fait. Voilà. Mais le fait de le dire, c'est beaucoup plus pour donner des gages à l'opinion publique nationale et aussi internationale que ce n'est pas un régime révolutionnaire comme on en a connu par le passé. Et des aspects tels que la dépolitisation de l'administration, et à ce niveau, quand on parle de dépolitisation de l'administration, il y a parfois une mauvaise analyse qui est faite de la situation. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas dépolitiser l'administration.
Et pourquoi cela?
Ben, quand un président vient, il va nommer les personnes avec qui il veut travailler. Il y a forcément des acquaintances politiques. On ne peut pas empêcher un chef d'État élu de nommer les personnes avec qui il veut travailler. C'est un fait. Il peut choisir de nommer des personnes issues de la société civile ou même de l'opposition, tout comme il aussi peut se fonder sur des personnes qui ont soutenu sa candidature. Le vrai problème de l'administration, ce n'est pas la politisation en réalité, c'est la compétence. Concrètement, lorsque une personne n'est pas compétente et est promue à un poste de responsabilité, ça pose un problème parce que cette personne est parfois obligée de faire un certain prosélytisme politique. Et au besoin, en cassant toutes les compétences, en détruisant toutes les compétences pour pouvoir s'asseoir. C'est ça le vrai fond du problème. On ne peut pas dépolitiser l'administration. On peut l'annoncer, oui. Mais dans le fond, l'administration restera toujours politisée. Mais on le sentira moins lorsque un régime fait la promotion des cadres compétents. Il y a des personnes qu'on promeut à des postes parce qu'on veut effectivement que ces personnes-là financent le parti en retour. Parce que la machine électorale, la machine politique est vorace en ressources financières. Et lorsque vous êtes nommé à un poste pour pouvoir renflouer les caisses du parti, évidemment, parfois, il y a un problème éthique qui peut se poser par rapport à certaines décisions que vous allez pouvoir prendre. L'idéal serait d'abord que, premièrement, on essaie au plus, au mieux de discipliner le rôle de l'argent dans l'arène politique. Deuxièmement, la promotion des compétences. Un cadre qui est compétent, vous n'allez pas sentir son bon politique, même s'il en a.
Alors, Dr. Daniel Kéry, on parle de politiser l'administration, mais qu'en est-il également de l'armée, quand on sait que pendant le procès du putsch et autres, on a eu à comprendre par là qu'il y avait un peu des clans au niveau du RSP et tout, et cela se répercutait un peu dans l'ensemble de l'armée. Est-ce qu'au sein de l'armée, il n'y a pas un travail aussi qui mérite d'être fait?
Je vous réponds tout de suite que oui. Et l'avantage du Burkina Faso, c'est que c'est un tout petit pays, comme on le dit, un petit pays de savane où tout le monde se connaît. Donc, de la même manière, les magouilles, les différents détournements, les fraudes qui se passent dans le milieu civil, dans le milieu politique, sont connues des militaires. On peut également dire que dans leur milieu également, ce qui se passe là-bas est bien connu aussi des civils. Voilà. Et parfois, ça va ensemble. S'il y a des problèmes de corruption dans le monde politique, cela impacte le milieu des forces de défense et de sécurité. Et quelle légitimité, par exemple, le MPSA dispose pour pouvoir traquer les corrompus dans l'administration publique ou dans le milieu politique? Il faudrait d'abord qu'il y ait une cure dans l'armée. Que les différents audits qui ont été commandités par le président Kabore, et notamment la situation d'Inata, et les dizaines ou les centaines de milliards qu'on a injectés dans l'armée depuis 5 ans, qu'il y ait un doute très clair sur l'utilisation de ces fonds-là. Si déjà ce travail est fait au niveau de l'armée, vous allez voir que les civils vont commencer à trembler. Donc la vertu d'avoir été imprimé dans ce corps-là et être transposé plus tard dans les autres corps. Et je poursuis, même la société civile, le monde associatif n'est pas là pour soutenir un président ou bien pour soutenir un opposant politique. Les associations qui ont soutenu l'avènement du MPSA gagneraient à lui rendre œuvre utile en faisant des propositions concrètes, notamment en termes de création d'emplois, en termes de développement, en termes de démocratie, et non pas organiser des marches meetings pour soutenir. Ils n'en ont pas besoin. Si vous voulez organiser une marche pour soutenir, disons, un président, il faut beaucoup de ressources financières pour ça. Ce n'est pas un acte qui est sincère. Et la vraie légitimité, la vraie popularité d'un homme politique, c'est quand il est en difficulté. C'est pas quand il est au pouvoir.
Donc pour vous, la solution, c'est quoi, Philippe?
La solution,
En fait, c'est beaucoup plus le système politique qu'il faut réformer, pas seulement les textes. Laurent Gbagbo avait proposé une idée, en tout cas avec un peu de recul, je me rends compte qu'elle n'est pas si mauvaise. Est-ce qu'on est obligé de proposer que le président soit élu par un suffrage universel direct? On peut revenir un peu à un suffrage indirect par l'Assemblée nationale. C'est un exemple que je donne. Deuxièmement, il faut un peu rehausser le niveau, disons, de candidature de ceux qui veulent, par exemple, être députés ou conseillers municipaux. Je ne veux pas dire que j'ai le monopole des bonnes propositions. Mais je dirais que
différentes propositions.
Il faut réformer beaucoup plus le système. Parce que si on réforme juste les textes, on fixe des peines et autres, là, ça ne changera rien. Après la transition, le même système va revenir et la même politique va se réinstaller.
C'était l'invité de la rédaction.
Et c'est tout pour cette édition mise en onde par Edwige Tiendrebeugo. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.